Bref d'ailleurs, et donc sans tarder, nous entrons dans cette deuxième phase de dans la deuxième phase de cette conférence de presse, à savoir celle des questions et réponses. Donc veuillez mettre vos téléphones sous mode silencieux ou fermez-les carrément. Et donc je commence ici par deux questions, de préférence une dame. Il y en a pas? Donnez le micro là.
Sonia Rollet de Radio France Internationale. Je voulais vous reposer une question par rapport à justement les arrestations dont font l'objet les journalistes et également la mort du confrère de la RTNC en début de semaine, ainsi que ce qui a été dit par le ministère de la Communication par rapport aux médias étrangers et également à propos d'Okapi pour dire que c'était une radio partisane. Donc quelle est votre réaction à cette situation, à ce rapport tendu entre les autorités et les médias à la fois internationaux et locaux? Voilà.
Oui, merci pour cette question. José Maria, vous prenez le côté droit de l'homme et je prends l'autre aspect. Allez-y.
Nous sommes déjà exprimé notre préoccupation pour toute restriction de la liberté d'expression et liberté de presse qu'on considère essentielle pour la santé démocratique du pays. Nous pensons que toute restriction de la liberté d'expression affecte et a un impact négatif dans le climat démocratique de la démocratie et de la qualité de la démocratie du pays. Il avait l'opinion des rapporteurs spéciaux des droits à la liberté d'expression qui va s'exprimer de manière officielle. Mais donc, du côté de notre bureau, nous avons déjà condamné toutes les attaques et arrestations contre les journalistes et aussi tous les attentats législatifs ou d'autres façons de faire les restrictions de la liberté d'expression.
Oui, merci à José Maria. Donc je compléterai juste pour dire que d'abord, nous avons aussi été très attristés par la nouvelle de la mort de ce collègue de la RTNC. Bon, pour le moment, nous ne savons pas réellement dans quelles circonstances cette mort a eu lieu. Et je pense que le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies aussi va essayer d'en savoir un peu plus sur cette mort-là. Nous présentons en tout cas toutes nos condoléances à tous nos confrères de différentes radios et télévisions de la République démocratique du Congo. Maintenant, pour revenir un peu à ce que José Maria avait dit aussi, concernant toutes les mesures qui ont été prises, il faut considérer tout simplement que, conformément à la résolution 2277, qui fait la promotion de la création d'espaces de liberté, de la promotion de la liberté d'expression, mais aussi de la promotion du droit à l'information. Évidemment, en son temps, la MONUSCO a eu à déplorer cette situation-là, mais ceci ne nous empêche pas de rester en contact avec les autorités congolaises, de poursuivre justement les contacts, de poursuivre les discussions pour qu'on puisse au mieux trouver une solution qui soit salutaire et bénéfique pour tout le monde. Évidemment, nous ne cesserons pas de marteler que la liberté d'expression, qui est d'ailleurs inscrite dans la loi fondamentale congolaise, devrait être respectée et devrait être promue. Merci donc. Nous prenons une deuxième question ici. Oui. Allez-y, s'il vous plaît.
RTNC de développement, Laetitia Massela, quel arsenal d'actions concrètes avez-vous pour permettre à la RDC de profiter d'une transition pacifique?
Oui, merci madame pour cette question. Je ne pense pas que la MONUSCO et les Nations Unies aient un quelconque arsenal pour justement sortir la RDC de cette situation. Encore une fois, ce problème est un problème congolais et je pense que jusqu'à présent, les Congolais se sont accordés sur un certain nombre de principes, sur un certain nombre d'actions et sur un certain nombre de points qui font que le processus a été enclenché. La MONUSCO, les Nations Unies ont un rôle d'accompagnement, un rôle d'encouragement, mais aussi un rôle qui consiste à apaiser toutes les tensions, à essayer d'appeler tous les acteurs autour d'une table pour que les points de divergence soient discutés et qu'ils soient aplanis. Mais nous n'avons ni loin la prétention de venir avec des recettes toutes faites. Je pense tout simplement que cette responsabilité incombe aux autorités congolaises, à tous les acteurs congolais, mais aussi au peuple congolais. Nous allons tout de suite à Goma pour prendre deux questions. Je vois que les gens s'impatientent un peu de l'autre côté. Beaucoup de mains sont levées. Vous avez deux questions, Goma. Oui, Goma. Apparemment, nous avons des problèmes techniques avec Goma, donc nous revenons ici à Kinshasa pour prendre...
Je vais poser la question à Mme Michel.
Oui, excusez-nous. Donc, comment vous avez le micro?
Oui, est-ce que vous nous écoutez, Goma? Oui, c'est Florence Marchal. Je voulais demander par rapport aux déplacés sud-soudanais. Il y a trois semaines, lors d'une conférence de presse, on a dit qu'on voulait les équiper de matériel pour une autosuffisance alimentaire, pour que les déplacés puissent produire eux-mêmes leur nourriture. Cela veut dire que le calculer au moins une durée par rapport à cela, parce que si c'était pour quelques mois, on ne pourrait pas leur donner des choses à planter pour pouvoir manger leurs fruits. Je veux savoir, en termes d'années, combien d'années sont prévues que les Sud-Soudanais vont rester en République démocratique du Congo en tant que réfugiés, selon les calculs des experts de l'UNHCR. Merci beaucoup.
Du HCR qui est à mes côtés, mais on ne va pas parler en nombre d'années, mais il va vous confirmer ça. Je lui cède mon siège.
Merci beaucoup pour la question. Il est difficile de dire aujourd'hui. Je suis Lubuku Mapendo, porte-parole adjoint du HCR à Kinshasa. Alors, il est difficile aujourd'hui de dire combien de temps les réfugiés, on ne parle pas ici des déplacés, mais des réfugiés sud-soudanais vont rester en République démocratique du Congo. Vous savez qu'ils ont fui des atrocités dans leur pays et ils ne pourront retourner que lorsque la situation permettra qu'ils puissent revivre dans leur pays. Et il faut aussi savoir que leur retour sera volontaire quand les conditions seront réunies. Donc il est aujourd'hui difficile de dire quand est-ce que les 60 000 réfugiés sud-soudanais que nous avons aujourd'hui et qui arrivent encore pourront retourner chez eux.
Merci pour tous ces éclairages. Juste pour ajouter que effectivement la situation de la présence des Sud-Soudanais en RDC est une des préoccupations, d'ailleurs qui a été discutée récemment encore au sommet de Luanda, où les gens ont martelé avec suffisance que la RDC ne devrait pas être le réceptacle des problèmes des autres, mais aussi où des initiatives ont été prises pour encourager une action bilatérale entre les deux gouvernements pour que les contacts soient établis et que les gens puissent poursuivre les efforts pour trouver une solution définitive et pérenne à la situation de la présence de ces Sud-Soudanais. Et au niveau du Conseil de sécurité aussi, cette question est à l'étude pour trouver une solution. Donc nous espérons tout simplement que ce ne sera pas en termes d'années, mais peut-être très bientôt des solutions seront trouvées. Donc nous restons à Goma pour prendre une deuxième question.
Vous avez le micro.
Oui. C'est Charlie Tassarika pour la Voix de l'Amérique. Ma question, je l'adresse à M. Félix Lass. Et depuis les discours d'hier, maintenant, on sait que les élections ne vont plus s'organiser ni en 2016, ni en 2017. Je veux savoir, est-ce que la MONUSCO est prête à accompagner un partenaire qui n'est pas dans le cadre même de l'accord ou de la résolution 2277?
Voulez-vous reformuler votre question, s'il vous plaît, avant de poser le micro?
En fait, j'aimerais savoir si la MONUSCO est prête à accompagner maintenant un partenaire qui est hors du cadre de la résolution 2277, parce que c'est bien dit depuis hier que le président l'a bien précisé qu'il n'y aura pas élection pour cette année.
Mais la MONUSCO n'a aucun commentaire à faire là-dessus. Je pense que... un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence. Je pense que la MONUSCO, comme tous les autres partenaires, ont une responsabilité qui est clairement indiquée dans la résolution 2277, c'est d'accompagner le processus qui sera initié par les Congolais eux-mêmes. Et je pense que nous n'avons pas de commentaire à faire sur la déclaration du président de la République, mais nous restons mobilisés et engagés pour poursuivre, pour accompagner tous les efforts et toutes les initiatives que les Congolais auront décidées par eux-mêmes. Donc voilà ce que nous pouvons vous dire là-dessus. Maintenant, c'est sorti de la résolution 2277, je pense que ça, c'est de votre responsabilité, c'est vous qui le dites. Nous revenons ici à Kinshasa pour prendre tout de suite deux autres questions. Une à droite et une à gauche. Oui, donnez à la dame là, juste à côté, madame. Oui, vous avez le micro.
C'est Madame Christiane Ekambo pour le journal Africa News et le journal des nations.net. Ma question s'adresse à Monsieur Wilmotte, que je tiens d'abord à remercier parce que j'apprécie sa présence parmi nous en tant que numéro un de l'UNICEF et sa politique d'approche proximité avec le journaliste. En tout cas, encore une fois, nous vous remercions. Je voulais demander si vous pouvez faire un bilan de la situation de l'enfant en ce qui concerne précisément deux secteurs. L'éducation, la scolarité ici en RDC et la mortalité infantile. Est-ce qu'il y a eu des progrès? Et s'il y a eu des progrès, est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'état de lieu dans ces deux secteurs-là?
Merci. Vous avez la parole, monsieur. Non, c'est bon.
Merci, merci madame. Merci madame. Et évidemment, c'est un sujet qui pourrait mériter d'y consacrer évidemment beaucoup plus de temps. Mais si je peux oser un raccourci dans ces deux secteurs, il y a eu des progrès indéniables hein, en matière de mortalité des jeunes enfants, la survie de l'enfant, comme nous appelons ça. La mortalité des enfants de moins de 5 ans a baissé de 30% au cours des 7 dernières années, ce qui est évidemment tout à fait significatif, même si en fait la RDC n'a pas été en mesure d'atteindre l'objectif fixé, du millénaire relatif à la mortalité des jeunes enfants, puisque l'objectif c'était de réduire de deux tiers la mortalité entre 2000 et 2015. Donc le pays n'a pas atteint cet objectif. Néanmoins, il y a eu quand même des progrès importants, 30% de réduction en 7 ans, pour l'essentiel lié à au passage à échelle, à une grande échelle d'intervention ayant un fort impact. J'en citerai quelques-unes. La vaccination, il reste encore des défis puisque l'on voit qu'il y a encore des épidémies de rougeole dans certaines parties du pays. Néanmoins, il est indéniable que la rougeole, qui avant était l'une des principales causes de mortalité des jeunes enfants, ne constitue plus l'une des principales causes de mortalité en raison notamment des progrès accomplis dans le domaine de la vaccination. Il y a une autre intervention qui a eu un impact très fort, c'est le fait que maintenant plus de 50% des enfants de moins de 5 ans couchent sous une moustiquaire imprégnée. Ça, c'est une des armes, c'est l'arme la plus efficace dont nous disposons à l'heure actuelle pour prévenir le paludisme. Je pense qu'il y a eu aussi d'autres interventions très rapidement, la supplémentation en vitamine A, etc. Donc, des progrès. Évidemment, il reste pas mal de défis pour faire en sorte que chaque enfant, quel que soit l'endroit où il se situe en RDC, bénéficie de ces mêmes services. Ça, c'est encore un grand défi, parce qu'il y a encore des inéquités liées à l'accès géographique aux services de base. En matière d'éducation, très rapidement, Aussi des progrès importants en matière de scolarisation. Au début du primaire, hein, on constate qu'il n'y a plus guère de, il n'y a plus de différence véritablement entre garçons et filles, avec des taux de scolarisation nets qui sont quand même assez importants, plus de 70%. Il existe encore un certain nombre de défis, il ne faut pas les cacher. L'effectivité de la politique de gratuité, je pense, est encore un défi, même s'il y a aussi des progrès. Et puis aussi le défi de la qualité de l'éducation, parce que une chose est d'aller à l'école, une autre est d'en ressortir en ayant acquis les compétences prévues par les politiques scolaires. Donc voilà, très rapidement, deux ou trois réflexions sur ces deux sujets. Merci.
Merci. Nous restons à Kinshasa pour une deuxième question sur la droite. Je rappelle au passage que nous avons Monsieur José Maria des droits de l'homme qui est parmi nous, donc je pense qu'il attend des questions. Oui, une question par là.
Merci. Et c'est Rigobert Kabongo pour le Courrier d'Afrique et l'agence Univers Plus Média. Depuis hier, nous avons reçu une correspondance de nos amis qui sont basés à l'Est, nous informant les suicides volontaires de l'ex-rebelle Sultani Makenga du CNDP. Et on nous a aussi encore impliqué c'est les combattants de cet ex-mouvement rebelle seraient en train de se réorganiser. J'aimerais avoir des précisions sur de la part du porte-parole militaire ou de vous, colonel, parce que vous êtes aussi doué dans ce domaine.
Oui, merci. Je pense que le lieutenant-colonel Hack vient d'arriver, donc nous allons quand même, n'allons pas le jeter à l'eau tout de suite. Je prends cette question. Effectivement, beaucoup de rumeurs circulent ces temps-ci sur non seulement la disparition de Sultani Makenga à partir de l'Ouganda où il se trouverait, et évidemment aussi son arrestation à la frontière avec la RDC, des rumeurs aussi relatives à la reconstitution d'un groupe armé éventuellement. Je signale juste au passage, vous avez mentionné CNDP. CNDP, c'était en 2008. Sultani Makenga s'est illustré récemment en prenant le commandement du M23 qui a été défait par une coalition MONUSCO-FRDC et qui a poussé ces éléments rebelles du M23 vers l'Ouganda, et ils étaient récemment encore cantonné à Bihanga, au camp de Bihanga en République démocratique du Congo. Donc je sais aussi que le porte-parole militaire des forces de défense et de sécurité ougandais s'est exprimé là-dessus pour dire et démentir un peu toute cette fausse rumeur qui circulait et dire carrément de manière très claire que Sultani Makenga est actuellement à Kampala. Donc c'est à cela que je m'en tiens. Mais je dis encore une fois, si toutefois cette éventualité était vraiment probable, je pense que le mécanisme conjoint de vérification serait mis en œuvre, sans compter toutes les activités qui pourraient être menées par les FRDC et la MONUSCO pour confirmer cette rumeur qui circule. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Je vais à Goma et je rends tout de suite l'antenne à Radio Okapi tout en leur exprimant nos remerciements les plus sincères. Goma, vous avez deux questions. Nous poursuivons cette conférence de presse encore pour une dizaine de minutes, compte tenu des invités que nous avons aujourd'hui sur ce plateau. Goma, allez-y un peu plus vite.
Voilà, je reprends notre Blaise Pascal pour le compte de l'Essentiel Group. Je voudrais poser ma question à Rosé. Finalement, les rapports que produit le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, c'est pour quelle finalité? Parce que on ne fait produire de rapports, contradiction avec le gouvernement, mais les victimes en soi restent dans cet état sans indemnisation. Je voudrais savoir le rapport. Mais et aussi en passant, je voudrais demander à Florence la mise au point qu'elle a faite tout à l'heure par rapport à l'appui de la MONUSCO. Est-ce que c'est en réaction au discours du chef de l'État qui n'a pas mentionné la MONUSCO par rapport aux différents partenaires qui appuient le processus électoral? Merci.
Merci, donc, Monsieur Ardaz.
Merci beaucoup pour la question. On revient toujours sur la question de la méthodologie de travail du bureau et aussi qu'est-ce qu'on fait avec les reports. J'ai dit plusieurs fois que les rapports, c'est seulement une manière de montrer notre travail. C'est comme la photo minute, l'analyse de la situation qu'on partage avec vous. Mais derrière les rapports, il y a le travail de presque 200 personnes qui travaillent dans les bureaux conjoints, qui fait qui collecte l'information, qui fait les enquêtes. Et il y a une autre version de tout ce travail de documentation des violations des droits de l'homme qui est partagé avec les autorités et qui est utilisé pour faire la base pour les enquêtes de beaucoup de cette violation qu'on a rapporté. Par exemple, quand on parle de ce mois, il y avait 28 membres de l'FRDC qui ont été condamnés par violation des droits de l'homme, c'est parce que l'information de tous les mois était partagée avec les auditeurs militaires et qui fait l'enquête, qui partage avec les auditeurs au niveau local et qui fait les enquêtes pour traduire en justice les responsables des violations des droits de l'homme. On utilise aussi les rapports pour cibler les programmes d'assistance technique, les trainings, et aussi pour identifier les autres programmes d'assistance, comme vous avez bien parlé, de la question d'assistance aux victimes, aux protections des témoins. Alors, comme j'ai dit, les rapports, c'est seulement une petite part, très important, mais une petite part de notre travail de documentation et identification des auteurs de violations des droits de l'homme.
Oui, merci. Donc, Florence, vous avez des éléments de réponse à la requête de nos confrères.
Oui, juste pour préciser que mon annonce d'aujourd'hui, qui va devenir un rendez-vous hebdomadaire, d'ailleurs, pour vous tenir informé du soutien que les Nations Unies apportent à la révision du fichier électoral. Donc aujourd'hui, c'était le hasard du calendrier, c'était la première fois où il y avait cette contribution. Et pourquoi aujourd'hui la première fois? Parce que, comme je l'ai annoncé, les rotations aériennes se sont accélérées ces derniers jours. Et donc, j'attendais d'avoir des informations suffisamment intéressantes à vous donner avant d'intervenir sur ce sujet.
Merci. Donc nous restons à Goma pour une deuxième question, il me semble. Oui, Goma.
Merci. Je suis Jackson Mouchima de la RTNC Goma. Ma question s'adresse au porte-parole de la MONUSCO. Je voudrais savoir à quoi peut s'attendre la population du Nord Kivu, précisément celle de Beni, après le passage des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies dans cette partie du pays, surtout que ces derniers ont qualifié l'activisme des ADF Nalu de terroriste.
Je n'ai pas bien saisi la dernière partie de votre question. Allez-y.
Merci. La dernière partie, je voulais insinuer pour dire les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont qualifié l'activisme de Zadet Nalu de terroriste. Je ne sais pas qu'est-ce que la population de cette partie du pays peut attendre de cette mission.
Oui, merci. Je ne sais pas si vous insistez sur la qualification du mouvement rebelle ou si vous insistez sur les attentes des populations suite à la visite du Conseil de sécurité. Ben, l'un dans l'autre, je vais essayer d'y répondre. Donc, pour le premier volet de votre question, il est tout à fait vrai que les actes posés par le groupe rebelle ADF sont des actes terroristes. Qui entre dans le cadre d'une guerre asymétrique, on l'a répété plusieurs fois aussi, mais il faudra tenir compte du mode opératoire de ces groupes armés pour réellement qualifier les actes qu'ils ont posés d'actes terroristes. Évidemment, je pense même que les membres du Conseil de sécurité, lors de leur visite, qui avaient pour but d'abord d'évaluer la situation sécuritaire ensemble avec et les autorités provinciales et les autorités militaires déployées congolaises, mais aussi avec la force de la MONUSCO. Une évaluation des moyens et des ressources mises à la disposition de la MONUSCO quant à leur utilisation de la façon la plus effective. Ça aussi, c'est un aspect de cette visite. Mais aussi, il y a un autre aspect de cette visite du Conseil de sécurité qui n'était rien d'autre que l'expression d'une solidarité avec les populations du territoire de Béni qui, comme vous le savez, subissent de manière récurrente, de manière à la limite quotidienne, toute la violence perpétrée par ces groupes armés. Mais aussi, les membres du Conseil de sécurité sont allés à l'écoute des populations de Béni, mais aussi de la société civile, des confessions religieuses, etc. Ils ont rencontré en fait les acteurs politiques, les acteurs, les responsables administratifs, politico-administratifs, mais aussi les membres de la société civile pour partager et recueillir leur point de vue. Je pense qu'ils sont partis de Béni avec une idée assez étoffée, en tout cas des éléments probants qui leur permettront de prendre des décisions lorsqu'ils s'inclineront dans la rédaction d'une résolution future qui concerne la RDC. Mais je pense tout simplement que c'était une bonne interaction avec toutes ces entités-là pour avoir une idée précise, mieux connaître la situation à l'est de la RDC. Merci. Donc nous revenons ici à Kinshasa pour prendre deux autres questions, une à droite et une à gauche. Passez-lui le micro, s'il vous plaît.
Merci, c'est Isaac Mwenza pour le compte Congo Opportunities Media. Ma question s'adresse au porte-parole. Je ne vous demande pas où, on n'attend pas de la MONUSCO de commenter les discours du chef de l'État, mais nous avons compris que les bons offices du Conseil de sécurité des Nations Unies ne sont pas bienvenus dans la mesure où le chef de l'État a stigmatisé l'ingérence extérieure dans des problèmes entre Congolais. Vous venez de soulever que la MONUSCO est là pour accompagner le pays dans les résolutions qu'ils ont. Mais le discours d'hier pose déjà de problèmes.
Allez-y, posez votre question.
Ma question est celle-ci. Puisque le problème relatif au troisième mandat n'a pas été évoqué lors des discussions entre les chefs de l'État et la délégation des Conseils des Nations Unies. Hier, il a réitéré sa volonté de respecter la Constitution, qui est différente de...
Posez votre question,
s'il vous plaît. J'arrive. Ma question est, en cas de modification de la Constitution ou de référendum, parce que c'est aussi constitutionnel. Si cela arrivait, vous allez continuer à appuyer le pays dans ses sens. C'est ça, ma question.
Oui, merci. C'est vrai que vous avez fait un long détour pour arriver à cette question, mais attendez, je vais essayer d'y répondre parce que vous avez posé une question. D'abord, vous avez mentionné l'interférence extérieure. Je ne pense pas que dans ce discours, il ait été une seule fois mentionné que l'ingérence extérieure dont on fait cas concerne directement les Nations Unies. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, vous semblez oublier que la République démocratique du Congo est membre à part entière des Nations Unies, donc je ne vois pas d'ingérence extérieure puisque nous sommes tous dans la même famille, la famille des Nations Unies. Et il faut rappeler qu'à plusieurs reprises, la République démocratique du Congo a siégé au Conseil de sécurité. Je pense que c'était en 90 et 91, et puis une deuxième fois encore. Donc je pense que les décisions qui sont prises aux Nations Unies, et ou qui ont été prises aux Nations Unies au moment où la RDC siégeait au Conseil de sécurité, je pense que la RDC endosse aussi ses responsabilités. Donc c'est pour vous dire qu'elle participe, elle est membre à part entière du système des Nations Unies. Donc, l'ingérence extérieure, je ne pense pas qu'elle nous concerne directement. Deuxièmement, je pense que la position de la RDC est clairement exprimée au sein de cette instance. Et troisièmement, je pense aussi que la RDC a sa voix à faire entendre au sein de cette instance. Donc, voilà de manière très globale ce que je peux vous dire. Maintenant, vous parlez d'une modification de la Constitution. Je ne pense pas que ceci ait été aussi clairement exprimé lors de l'adresse du chef de l'État à la nation hier, qu'il allait transformer ou en tout cas modifier la Constitution. Ça, c'est vous qui le dites. Donc, je ne peux pas commenter sur des choses que je n'ai pas entendues. Merci. Je prends une deuxième question ici.
Merci. Merci, Monsieur Félix.
on a bien suivi les réponses que vous donnez à nos questions, surtout d'autres politiques. Deux fois, vous devenez quelque peu réticent. Je continue dans la même logique avec les amis pour vous demander, au passage, des membres du Conseil de sécurité, si j'ai bonne mémoire, ils ont demandé aux autorités du pays de lever la mesure interdisant des manifestations publiques. Ma petite question, peut-être qu'elle ne pourra pas avoir de réponse, qu'est-ce que la MONUSCO a fait pour aider, permettre à l'opposition de vaquer à ses occupations en termes de meetings et de marches pacifiques sans restriction de la part du pouvoir.
Oui, merci. Donc, je voudrais tout simplement dire tout de suite que le Conseil de sécurité a bien tenu une conférence de presse à l'hôtel Kempinski et l'occasion était donnée à tous les journalistes de pouvoir poser leurs questions directement aux membres du Conseil de sécurité quant à la quintessence des discussions qu'ils ont eues ici à Kinshasa avec aussi bien les partis politiques que les membres de la société civile, mais aussi la plus haute autorité de cet État. Mais ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est qu'au passage de ce conseil, ils ont tout simplement exprimé des messages d'encouragement à la classe politique pour un peu plus de responsabilité et un peu plus d'engagement quant à la recherche d'une solution paisible pour qu'on aille vers des élections transparentes, mais aussi un message d'encouragement, mais aussi un message à ce que tout soit mis en œuvre par tous les acteurs pour que le peuple congolais, en dernier ressort, puisse bénéficier de tout ce processus que nous voulons apaiser et qui puisse nous conduire vers des élections beaucoup plus transparentes et beaucoup plus apaisées. Mais aussi un message d'encouragement et d'engagement qui a été très fort, qui a été très fortement prononcé par M. Martens, le co-leader de cette délégation-là, qui a interpellé tous les acteurs politiques congolais pour éviter le chaos dans ce pays. Il a demandé la participation et la contribution de tous, mais en gardant à l'esprit un seul intérêt, celui du peuple congolais. Donc voilà, de manière très globale, ce qui a motivé un peu les membres du Conseil de sécurité qui, comme je le dis, sont venus ici dans le cadre d'une diplomatie préventive, sachant que aujourd'hui des tensions et des problèmes existent en République démocratique du Congo. Donc ils sont venus eux-mêmes rencontrer les acteurs, eux-mêmes écouter les acteurs, mais aussi donner leur point de vue par rapport à ça. Je pense que la prochaine résolution tiendra compte de toutes ces observations, ou en tout cas de ce que tous ces membres du Conseil de sécurité ont pu entendre ici, parce qu'ils étaient aussi venus apprendre et écouter. Donc, messieurs, je vous demande de prendre une dernière question avant de mettre un terme à cette conférence de presse. Donc, oui, donnez-lui là, il est là à côté. Je viens de prendre à gauche, donnez.
Merci. Moi, c'est Flavien Msens pour le compte de Planète Télévision. Monsieur le porte-parole, je reviens toujours sur la médiation des évêques. Mission confiée par les chefs de l'État. Malheureusement, lui-même a dit, lors des discours au Congrès, que ça n'a pas abouti. Or, la MONUSCO soutient toujours les dialogues. Mais quelle est la réaction maintenant aujourd'hui de la MONUSCO suite à cette mission des évêques vers les rassemblements?
Mais oui, merci. Mais vous savez, ce n'est pas un travail qui s'achève. Ça veut dire que c'est un travail de longue haleine qui va se poursuivre, parce que au-delà peut-être de cette première étape qui n'a pas engrangé tous les résultats escomptés, ceci ne veut pas dire que les contacts ne se poursuivent pas ou qu'il y a en tout cas une rupture de communication entre toutes les parties. Je souligne au passage vraiment la bonne volonté de la SENCO qui continue à s'évertuer pour ramener tout le monde autour de table et aplanir toutes les divergences, mais aussi ceci c'est pour éviter la violence et permettre une transition qui sera assez calme et tranquille. Mais encore une fois, comme je le dis, la MONUSCO a soutenu cette action parce que le dialogue étant la voie royale pour aplanir tous ces problèmes-là, je pense que la MONUSCO, dans sa lecture, estime tout simplement qu'il faut poursuivre l'action. Et parce que je pense aussi que l'accord est assez ouvert. Il permet à tout le monde de pouvoir prendre le train en marche sans fixer réellement un délai de prescription, etc. Donc je pense que tous les efforts vont continuer. Ceux de Maman Sédoukou, ceux d'autres amis du Congo, ceux d'autres partenaires de la République du Congo continueront à pousser, à encourager et à demander à tous les acteurs congolais de se réunir et de trouver des solutions qui soient pérenne pour le peuple congolais. Merci donc, fin de cette conférence de presse, à mercredi prochain.